Bien, alors on va passer au monde biblique pour la dernière conférence de cette première partie avant la pause. Donc Corinne Lanoir de l'Institut protestant de théologie va nous parler de Jézabel, que vous connaissez tous, qui fait aussi fantasmer beaucoup, mais qui est à la fois princesse de Tyr et reine d'Israël. Vas-y.
Alors, merci aux organisateurs de cette invitation. Et je vous propose donc maintenant de nous attacher à ce personnage de Jézabel qui apparaît dans le livre des rois, qui est lié à ceux de Akab, le roi d'Israël, fils d'Omri, son mari, et au prophète Élie, le Tishbite. C'est un personnage qui va se redévelopper plus tard, littérairement dans un chapitre de l'Apocalypse. Et il existe aujourd'hui encore dans différentes églises évangéliques un esprit de Jézabel, diabolique et sournois, qui pousse à rechercher le pouvoir et les flatteries et qu'il convient de démasquer et de combattre avec force prière. Jézabel, donc, comme du reste Athalie, fille d'Akab, apparaissent comme deux reines fatales et malfaisantes qui méritent la mort. Je me centrerai sur le texte de 1 Roi 21, celui de l'histoire de la vigne de Naboth, avec quelques incursions dans quelques textes autour. Et je reprendrai d'abord quelques hypothèses sur la rédaction de ce chapitre de 1 Roi 21, et pour ensuite me focaliser sur le sens à donner à la présence de Jézabel dans ce texte. Alors, si on s'intéresse à l'analyse littéraire de 1 Roi 21, on distingue assez facilement deux parties. D'abord, un récit, les versets 1 à 16, où le roi Akab demande donc à Naboth de Jizréel de lui vendre sa vigne ou de l'échanger contre un autre terrain. Naboth refuse, arguant qu'il s'agit de sa Nahala. C'est un mot qu'on traduit souvent par héritage, mais en fait, il représente une propriété inaliénable d'une terre qui a été attribuée par une autorité supérieure. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le lire. Donc, c'est la Nahala de ses pères, et il ne veut pas la vendre, et Akab, donc, rentre chez lui dépité. Voyant son mari très affecté, la reine Jézabel prend les choses en main, organise un complot contre Naboth, le fait exécuter et envoie Akab prendre possession de cette vigne convoitée. Les versets 17 à 29 déroulent par contre une série d'oracles prononcés par le prophète Élie qui souligne la culpabilité d'Akab et annonce la destruction de cette famille royale, avec une mention spéciale pour Jézabel destinée à être mangée par les chiens. Le repentir d'Akab, qui arrive de façon surprenante, provoque alors un nouvel oracle qui annonce le report du malheur sur le fils d'Akab. Dans leur état actuel, les deux parties alternent dialogue et intervention d'un narrateur dans un tressage serré qui mêle paroles et actes des personnages et jugement du narrateur qui utilise un vocabulaire largement deutéronomiste. On a montré, par exemple, comment les oracles contre Akab en 21-24 sont rédigés de façon similaire à ceux contre les deux autres dynasties du Nord, la maison de Jéroboam et la maison de Baasha. Ces oracles de facture donc deutéronomiste permettraient de mettre en série les rois d'Israël et leur échec, menant à la catastrophe de la chute du royaume du Nord. Mais à la lecture du chapitre 21, on voit apparaître bon nombre d'aspérités qui font penser à une rédaction plus complexe. Alors, voici quelques éléments. En 1 Roi 21, 1 à 16, Jézabel est la protagoniste la plus active, bien qu'elle soit présentée, encadrée par un père et un mari. Après le premier dialogue entre Akab et Naboth et le refus de ce dernier, Akab rentre chez lui. Et après l'avoir interrogée, Jézabel réagit d'abord par des paroles et une promesse, et puis par des actions. Dans cette promesse, on retrouve un thème qui court tout au long de ces premiers versets, c'est le don. « Donne-moi ta vigne, demande Akab, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Non, je ne te donnerai pas, dit Naboth. Akab répète à Jézabel ce dialogue, « Donne-moi, je te donnerai, je ne te donnerai pas. » Et le verset 7 conclut par les paroles de Jézabel, « C'est moi qui te donnerai la vigne de Naboth. » Après ces paroles, elle passe à l'action. Et son action, c'est d'abord d'écrire des lettres. Donc, Jézabel est une femme éduquée, qu'elle scelle du sceau royal, le sceau de son mari. Elle prend donc là, effectivement, le pouvoir. Elle les envoie aux anciens, leur donne des ordres. Ces ordres sont minutieusement exécutés. Elle fait lever Akab et l'envoie prendre possession de la ville, de la vigne. Dans cette première partie, Jézabel semble donc avoir la majeure responsabilité dans la mort de Naboth, et Akab laisse faire et récolte les fruits. Cependant, dans la deuxième partie, c'est Élie qui devient le protagoniste principal, et c'est d'abord à Akab que le crime est reproché. Élie est envoyé prophétiser à Akab alors qu'il est encore dans la vigne, et il lui fait plusieurs annonces prophétiques. Les deux premières annoncent la mort violente d'Akab, puis la destruction de sa dynastie, au verset 20-22, et Jézabel n'y est pas mentionnée. Elle arrive coincée, en quelque sorte, entre les autres paroles prophétiques, avec une phrase qui la concerne, mais rattachée par un « gamme » aussi, qui laisse penser qu'il s'agit d'un ajout. Le verset 23. Puis revient une annonce concernant la maison d'Akab au verset 24, et les versets 25 et 26 peuvent se lire de façon différente, soit comme la suite des paroles de Yahvé, soit comme un commentaire du narrateur, où un demi-verset ajoute là encore le thème de l'influence négative de Jézabel sur Akab. Le bilan est donc beaucoup plus lourd pour Akab dans cette deuxième partie. Mais il va être allégé avec le deuil observé par Akab qui s'humilie, un verbe plutôt tardif qu'on trouve dans les textes sacerdotaux et les chroniques. Et un dernier oracle renvoie alors la catastrophe à la génération suivante. Les pas lents d'Akab font effet. Pour Jézabel, par contre, il n'y a pas de possibilité de faire amende honorable. La composition de cette partie est assez discutée, mais il est évident que les deux allusions à Jézabel viennent interrompre en quelque sorte un discours adressé à Akab et à sa maison, où Jézabel n'est pas spécifiquement prise en considération. Mais il faut à un moment l'intégrer à cause du rôle qu'on lui fait jouer dans la première partie. Si nous élargissons le contexte et que nous allons lire 2 Rois 9, qui raconte l'accomplissement de ces prophéties, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous sommes alors au moment de la révolte de Jéhu, un général usurpateur qui va éliminer la dynastie d'Omri pour prendre le pouvoir en Israël après Akab. Et nous lisons là une version assez différente de la mort de Naboth, dans les versets 25b et 26a. Dans ce récit, on ne parle pas de la vigne de Naboth, comme en 1 Roi 21, mais d'une propriété, chelka, un terrain, une parcelle. On trouve ce mot au verset 21, 25, 26 et 27. Dans le récit de 1 Roi 21, la propriété semblait à côté du palais du roi, juste à côté, comme le dit Akab au verset 1 et 2. Alors qu'ici, Joram doit atteler son char pour aller retrouver Jéhu dans la propriété de Naboth, au verset 25. Jéhu parle, lui, du crime contre Naboth et ses fils. Or, ses fils ne sont pas mentionnés en 1 Roi 21. Jéhu affirme avoir été présent avec son écuyer Bidkar au moment où l'oracle contre Akab a été prononcé, ce qu'on n'a pas non plus dans le chapitre 21. Et cet oracle est ici prononcé par un prophète anonyme. S'agit-il d'Élie ? On n'en sait rien. Par contre, le crime semble avoir été perpétré dans le secret, et seul Yahvé a vu le sang de Naboth. Couler, avec une formule au verset 26, Remetz, qui peut signifier la nuit dernière, donc encore une idée de choses cachées. Et Jézabel n'est pas mentionnée à propos du crime de Naboth, il n'y a pas de procès public mis en scène, alors qu'elle va apparaître de façon assez importante dans la suite du récit pour la mort qui est évoquée. Jézabel n'est évoquée en 2 Rois 9 que comme une débauchée et une sorcière, ce qui est déjà pas mal, mais elle n'est pas coupable du crime de Naboth. On a donc 2 versions du crime contre Naboth où Jézabel ne joue pas le même rôle. La mort spectaculaire de Jézabel est racontée en 2 Rois 9, 30 à 37. Elle est assassinée par défenestration du palais de Jizréel sur les ordres de Jéhu qui piétine son cadavre, puis elle est mangée par les chiens. on ne retrouve que son crâne, ses pieds et ses paumes de main à enterrer, parce qu'il faut bien l'enterrer, dit Jéhu, car c'est une fille de roi. Il ne lui reconnaît pas le statut de reine d'Israël, mais celui de fille de roi. On trouve d'ailleurs deux oracles qui prononcent cette mort, l'un par Élie, les chiens mangeront Jézabel dans la propriété d'Israël, et l'autre par un jeune prophète anonyme envoyé par Élisée au moment où il vient oindre Jéhu comme roi. Et juste avant de s'enfuir, il dit « Quant à Jézabel, les chiens la mangeront dans la propriété d'Israël sans que personne puisse l'ensevelir ». On pourrait d'ailleurs ajouter que pour la mort d'Akab aussi, on a un problème parce que Akab semble, dans le texte de 1 roi 22, blessé au cours d'une guerre et mourir ensuite à Samarie, alors que les deux derniers versets qui rapportent la mort d'Akab font penser qu'il meurt, il se couche avec ses pères, donc il meurt plutôt tranquillement, c'est la formule habituelle qu'on utilise pour les rois. Pour en revenir à Jézabel, vous l'avez ici, le récit de la mort d'Akab. Pour en revenir à Jézabel et son rôle en 1 roi 21, il faut encore mentionner le flou concernant les lieux du récit. Akab, roi d'Israël, est d'abord désigné comme roi de Samarie, ce qui est un titre étrange qu'on ne trouve ailleurs qu'en 2 rois 1-3 à propos d'Akazias, fils d'Akab, qui tombe d'ailleurs lui aussi du balcon de sa chambre haute et mourra de cette blessure. Ça a l'air un peu génétique dans cette famille. Mais il semble qu'en 1 roi 21, Akab est dans son palais à Israël, car Naboth est présenté comme israélite et sa vigne est à Israël. Elle ne pourrait d'ailleurs pas être à Samarie, une sorte de ville nouvelle construite sur un terrain acheté par Omri à la génération précédente pour en faire sa capitale. Ernst Knauf note que, parler d'Israël au IXe siècle signifie parler d'un camp militaire royal où Akab a un lieu de résidence, où peu de population civile est présente et où la présence d'un conseil d'anciens est improbable. Contrairement à Samarie, construite sur le territoire tribal de Manassé, Israël est dans la plaine, un centre de culture cananéenne dans l'Israël omride. C'est une ville non fortifiée où stationnent les chars de combat. Knauf note également que beaucoup des plans de villes d'Israël et Juda que nous pouvons reconstituer montrent des villes très peuplées avec des ruelles étroites où l'idée même d'un jardin potager ne fait pas sens à l'époque. Or, si tout se passe à Jizréel, pourquoi Jézabel a-t-elle besoin d'écrire aux anciens ? Si on s'en tient à ce que représente Jizréel et ses habitants au IXe siècle, le déploiement administratif utilisé par Jézabel n'a pas lieu d'être. Il faut donc d'une part chercher pour quelle raison ce motif littéraire de la lettre apparaît, et d'autre part envisager dans quel contexte historique autre que le IXe siècle avant notre ère cette histoire fait sens. Sur ce deuxième point, les avis des exégètes divergent, évidemment, entre un récit ancien qui serait du IXe siècle retravaillé par un éditeur deutéronomiste, un récit écrit au temps de Jéhu pour légitimer le coup d'État et la destruction de la famille d'Akab, un récit deutéronomiste du temps de Josias ou un récit datant de l'époque perse. Plusieurs arguments proposés me semblent plaider en faveur de cette dernière hypothèse. Je n'en donnerai ici que quelques-uns. La façon d'envisager un mariage diplomatique visant à resserrer les liens entre deux royaumes voisins, comme c'est le cas entre Akab et Jézabel, princesse phénicienne, donc, est considérée ici comme un mariage mixte dangereux pour l'identité d'Israël, et ceci est une problématique plutôt du 5e siècle avant notre ère. Ça nous ramène au débat du temps de Néhémie et de la place des femmes étrangères. L'idée du potager, nous l'avons dit, est assez déplacée et elle conviendrait mieux dans une Jérusalem en reconstruction où il y a encore de la place et où Jérusalem était à la frontière entre les zones de culture et le désert. C'est également à l'époque de Néhémie qu'on mentionne des conseils d'anciens. Et en ce qui concerne la procédure engagée pour déguiser le crime de Naboth et l'appropriation de sa terre par le roi en procédure légale, on a effectivement plusieurs textes dans l'Exode, les Nombres et le Deutéronome qui sont derrière ce récit, comme par exemple Exode 22-27, « Dieu, tu ne l'insulteras pas et tu ne maudiras pas celui qui a une responsabilité dans ton peuple », ou le fait qu'il faille plusieurs témoins pour condamner quelqu'un à mort, ou le fait qu'on ne peut pas déplacer les limites du territoire, du terrain de son voisin, etc. Donc tous ces textes-là font qu'un roi 21 présuppose un état avancé de la rédaction de la Torah, où se trouvent ces textes, et de Josué, puisqu'on mentionne aussi les attributions aux tribus faites par Josué. Et cela nous ramènerait donc plutôt à une rédaction perse, enfin à l'époque perse. La question de la lettre a été travaillée de façon éclairante par plusieurs exégètes dans le cadre d'une comparaison littéraire avec un autre récit, celui de David et Bethsabée en 1 Samuel 11-12. David convoite Bethsabée, la femme de Uri le Hittite, son officier militaire, en la voyant depuis son palais. Il s'en empare et fait tuer Uri à la guerre. Si on établit un parallèle entre David et Achab, et d'une part, et entre Bethsabée et la vigne, les deux propriétés d'autre part, on peut en effet noter que les deux rois convoitent la propriété d'un sujet de rang inférieur qui se situe proche de leur palais. Une lettre royale est envoyée à des sujets obéissants pour obtenir le meurtre de celui qui gêne, Naboth ou Uri, grâce à des moyens qui détournent une procédure publique reconnue. Les instructions sont données une première fois, puis répétées pour leur mise en acte, et un rapport est encore envoyé au personnage royal. Le roi s'empare de l'objet convoité après la mort de son premier propriétaire. Un prophète est envoyé par Yahvé qui vient surprendre le roi et lui annonce un oracle de jugement. Le roi se repent et convainc Yahvé de reporter la punition à la génération suivante. Il est important de remarquer, comme le fait Marcia White, que ces éléments communs aux deux récits sont les mêmes que ceux qui distinguent la version du meurtre de Naboth de 2 rois 9 de celle de 1 roi 21. Et je la suis ici dans sa proposition de voir dans le récit de 1 roi 21 une réécriture du crime d'Akab selon les lignes du récit de David et Bethsabée. On peut ainsi expliquer la présence de la lettre scellée envoyée par Jézabel par la présence de celle de David. Je n'entre pas ici dans la discussion de ces propositions sur la datation du récit de David, mais je retiens juste l'idée que la question de la légitimation d'un successeur a priori illégitime, comme le sont Omri d'un côté et Salomon de l'autre, où j'ai eu d'ailleurs, et le passage d'une dynastie à une autre passe par le récit d'un crime et d'une repentance. Tous ces textes seraient donc à situer comme des textes deutéronomistes ou post-deutéronomistes et non du temps d'Akab au IXe siècle. Ils réfléchissent sur la question de la légitimité de la monarchie et de celle des dynasties du Nord en particulier. Mais pour la question qui nous occupe ici, celle de Jézabel, il faut souligner un élément. Parmi tous ces parallèles entre les deux récits, il existe une différence, et c'est justement la présence de Jézabel en 1 roi 21 qui n'a pas de parallèle dans le récit de David et Bethsabée. Nous voyons donc que Jézabel apparaît comme une figure littéraire, idéologique. On pourrait s'interroger si son rôle a été d'abord fort, puis minimisé, ou si cette figure a été ajoutée à un moment. J'opterais plutôt pour cette deuxième solution. Et Jézabel apparaîtrait donc comme une figure qui vient s'incruster comme un morceau d'ivoire dans l'élite Samarie. Mais que vient faire Jézabel dans cette galère? Alors, Jézabel, si on s'occupe du personnage tel qu'on nous en parle dans les textes du Livre des Rois, Jézabel est mentionnée pour la première fois en 1 roi 16-31, au moment où le rédacteur présente Achab, son mari, immédiatement placé dans la catégorie des rois qui font le mal, et qui le font abondamment. Achab le fait même plus que les autres, car il sert Baal et se prosterne devant lui. Ce mal est renforcé par son mariage avec Jézabel, qui toujours, selon le rédacteur deutéronomiste, introduit des prophètes de Baal à la cour. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra, qu'elle nourrit à sa table. Et puis en plus, elle tue les prophètes de Yahvé et menace Élie de mort. Elle est donc porteuse de mort et de violence et apparaît sous la plume de Théronomiste comme un personnage sans aucune nuance, enfermé dans l'image d'un autre puissant, mais à fuir et à rejeter. Son mariage avec Naboth est donc interprété dans la catégorie des mariages mixtes à éviter, car porteur de risques de mélange et de contamination, à éviter en Israël, là encore dans la droite ligne de la théologie de Théronomiste classique. Mais de plus, son nom a sans doute, sous la plume du scribe du Livre des Rois, une distorsion péjorative. Jézabel, Yitzebel en hébreu, signifie sans doute d'abord, ou est calqué sur un cri, Yitzevul, où est le prince ? La signification première de ce cri, où est le prince, renvoie au mythe de Baal et à son expression liturgique. Ce cri, où est le prince, arrive dans un moment décisif, celui où l'on attend que Baal, emporté par Moth dans le royaume des morts, revienne, car son absence cause la mort de la végétation, entraînant sécheresse et famine, alors que son retour garantit la fertilité du pays. Ce cri apparaît dans le mythe de Baal, où est Baal le conquérant, où est le prince, le seigneur de la terre. Jézabel, fille de prêtre, porte donc ce cri dans son nom. Mais il devient, avec une autre vocalisation, Yitzevul, il prend un sens négatif, qui pourrait être le sens de pas de noblesse. Et puis, Zevul, un titre de Baal, a été détourné en Zevel, qui signifie fumier, crotte. C'est ce que l'on trouve en 2937, le cadavre de Jézabel, enfin non, c'est pas ce mot-là qu'on trouve, mais c'est cette idée, le cadavre de Jézabel deviendra comme du fumier. Elle apparaît donc comme le stéréotype de l'autre, porteuse de mal et de mort, par son genre, par son ethnicité, par son rang, par sa religion et par sa culture, plus proche de la mer que des collines ou du désert. Peut-on sortir de ce personnage littérairement et théologiquement archi-construit par les deux théronomistes ? Jézabel nous est présentée comme une phénicienne, donc fortement influencée aussi par l'Égypte, et elle est présentée comme la fille d'Et-Baal, connue aussi comme Ito-Baal, dont le nom signifie « avec Baal », porteur ici du titre de roi de Sidon. Il s'agirait donc de Et-Baal Ier, qui est en fait roi à Tyr, à un moment où Tyr domine Sidon, entre 888 et 856 avant Jésus-Christ. On peut noter qu'il y a d'ailleurs des parallèles intéressants entre l'histoire de Tyr et Sidon et celle d'Israël et Juda. Et-Baal Ier, comme Omri, qui prend le pouvoir en 885, est un usurpateur. Il vient au pouvoir grâce à un coup d'État et l'assassinat du roi précédent. Et selon Flavius Joseph, ce coup d'État est organisé par les prêtres. Il précise que c'est Ito-Baal, prêtre d'Astarté, qui devient roi, avec le titre de roi des Tyriens et des Sidoniens, car Sidon est à ce moment annexé à Tyr. Il y a donc une sorte de monarchie bicéphale jusqu'en 701, avec une rivalité entre Tyr et Sidon, qui n'est pas sans rappeler la rivalité entre Samarie et Jérusalem. L'alliance par le mariage diplomatique de Jézabel avec Akab entre ces deux usurpateurs permet de renforcer leur légitimité. Elle sera détruite à partir de la révolte de Jéhu. On trouve un deuxième Et-Baal vers 740, mais surtout un troisième qui est, lui, exactement à l'époque du roi Sédécias à Jérusalem, et qui, comme lui, se révolte contre Nabucodonosor, et qui, comme lui, subira le siège de sa ville, avec peut-être aussi un départ en captivité après. Jézabel, le nom d'Et-Baal est donc lié de plusieurs façons à l'histoire d'Israël et Juda et à leur mémoire culturelle collective, et Jézabel est donc porteuse d'une culture égypto-phénicienne largement diffusée dans le Proche-Orient ancien. Elle est une sorte de catalyseur de diversité culturelle à un moment où la place des femmes est un enjeu à repenser à l'époque perse. Elle est une figure de l'hybridité qui dérange forcément ceux qui sont en recherche de pureté. Un roi 21 oppose de façon binaire des stéréotypes, bloquant ainsi une interculturalité existant de fait, mais non acceptée par les scribes qui produisent ce récit. Or, c'est un récit qui amène à s'interroger sur beaucoup d'enjeux fondamentaux dans la rencontre interculturelle, rencontre ratée dans le cas de Jézabel et qui mène à des impasses. Parmi ces enjeux, je citerai juste le rapport à la terre et à la propriété. Certes, il s'agit ici d'une transaction commerciale ratée que Jézabel remplace par un acte d'autorité royale en éliminant celui qui résiste, avec toute sa légitimité. Mais même si elle ne connaît pas les textes de loi israélites, elle sait que, comme dans tout le Proche-Orient ancien, une terre peut avoir plusieurs propriétaires, administratifs et économiques. Et elle sait aussi qu'un fief, un terrain inaliénable accordé par le roi ou le temple à une famille à qui on en confie la responsabilité, peut lui être enlevé si cette famille n'accomplit pas ses devoirs, mais ne peut pas devenir si facilement la propriété personnelle du roi. Il faut là faire appel à la corruption. Le rapport au pouvoir aussi. Certes, Jézabel est une tueuse, mais elle ne l'est ni plus ni moins qu'Élie, Akab ou Jéhu dans les textes environnants. Et cependant, à elle, il ne sera rien pardonné, elle qui synthétise ce croisement des cultures. Elle revendique un pouvoir que personne n'est prêt à lui accorder et met en lumière les dysfonctionnements du système où elle vit. Le rapport à la nourriture. Jézabel commence par donner à manger et à boire à sa table et finit manger par les chiens. Beaucoup d'éléments concernent le boire et le manger dans le cycle d'Élie, et ici, on se retrouve confronté à des questions fondamentales. Avec qui et à quelle table puis-je manger et comment éviter de me faire manger? Aucun horizon ne s'ouvre pour Jézabel, mais la question reste posée. Le rapport à la mort et au deuil. Si on sent une sorte de jubilation des scribes à décrire le sang de Jézabel éclabousser la scène, et si les injures et les coups mortels pleuvent, Jézabel, fille de roi, devrait pouvoir être enterrée, mais elle finit totalement effacée, sans corps, totalement éradiquée et sans possibilité de faire mémoire d'elle. Et le rapport à la divinité. Jézabel comme Élie porte un nom théophore. Pour comprendre la culture cananéenne, nous avons des textes, mais aussi des objets, des représentations comme celle-ci. Au moment de sa mort, Jézabel est dépeinte comme une dame à la fenêtre, un motif qu'on trouve sur des plaques d'ivoire, en particulier en Phénicie et ailleurs, au 9e et au 8e siècle, comme celle que vous avez là. Elle rappelle les mythes liés à Asherah, l'attente du retour après le sacrifice de la divinité, comme le criait aussi son nom, et ce qui bascule par la fenêtre, ce n'est donc pas seulement une reine, mais la mise à mort d'une divinité avec une parodie de festin sacré avec les chiens. C'est l'option des porteurs de vérité de l'orthodoxie judéenne cherchant à débarrasser le monde d'Asherah et sa puissance. C'est le divin féminin qu'on précipite par la fenêtre. En conclusion, de la reine phénicienne et de son réel pouvoir en Israël, nous avons tout à découvrir et ce ne sont pas les textes des rois qui nous y aideront. Sous la plume de Théronomiste, nous voyons encore un modèle polarisé et une vision du féminin comme dangereux, car il représente un autre, une autre, à qui on peine à se confronter. Pour les lecteurs et les lectrices que nous sommes, le personnage est à relire dans de nouveaux contextes où les mémoires culturelles peuvent ouvrir des brèches dans les orthodoxies religieuses. Car, comme le souligne Phyllis Tribal, l'idéologie détruit la civilité. Je vous remercie.